Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires. Il est 8h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Retour volontaire de près de 70 migrants maliens de la Libye. La cité d'accueil et d'information des Maliens de l'extérieur rassure que des dispositions sont prises pour que ces Maliens regagnent leur famille. La COP28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain. À quelques semaines de l'événement, la société civile malienne déplore une lenteur dans la délivrance des accréditations. La première édition du Salon des universités et grandes écoles du Mali a débuté hier à Bamako. L'événement se veut un cadre d'orientation et d'information pour les élèves et parents d'élèves. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Je vous le disais dans les titres. 69 migrants, dont des femmes et des enfants de la Libye, sont de retour. Ce retour volontaire a été organisé et coordonné par le ministère des Maliens établi à l'extérieur avec l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Selon les responsables de la cité d'accueil et d'information des Maliens de l'extérieur, des dispositions sont prises pour permettre à chacun de retourner chez soi, suivant ce reportage de Moussa Agmahaha.
Cette vague de migrants arrivés de Libye se compose comme suit. 30 hommes, 11 femmes et 28 enfants. Ces Maliens disent avoir rencontré beaucoup de difficultés en Libye.
J'ai rencontré des difficultés. Je ne gagnais pas de l'argent. Même avoir à manger, c'était un problème.
Tout ce que tu gagnes, on te le prend de force parce que tu n'as pas de papiers.
Je demande à l'autorité malienne de caler les aventuriers pour la Libye, c'est mieux.
Ces migrants maliens ont été accueillis à la cité d'accueil et d'information des Maliens de l'extérieur. Ils sont sensibilisés sur les conséquences de la migration avant de faciliter leur retour dans leur localité respective. Yaya Kone, administrateur de la cité.
Nous les assistons et nous les hébergeons pendant 3 jours. Pour Maliens de retour, pendant 3 jours, il est bien possible de pouvoir identifier sa région d'origine pour pouvoir l'acheminer à ce niveau. Et nous sommes appuyés et assistés dans ce travail-là par l'OIM qui prend en charge les frais de transport, une somme de 52 000 francs, même pour les enfants.
À noter qu'il est prévu un retour volontaire des 150 autres migrants du Niger le 16 novembre 2023.
Sur le même sujet, depuis près d'un mois environ, 300 Maliens bloqués au Niger demandent leur rapatriement au pays. Selon l'association malienne des expulsés, AME, ces Maliens, dont des jeunes et des femmes, vivent dans des conditions déplorables. Toutefois, Ousmane Diarra, président de l'association, affirme que des efforts sont en cours pour leur retour. Il est joint par Aïssata Diarra.
Alors, la plupart de ces jeunes, leur destination est d'aller en Europe. Mais malheureusement, vu la coopération entre l'Union européenne et les pays méditerranéens, il y a eu beaucoup de blocages. Ils sont un peu partout dispersés, donc ils sont beaucoup nombreux. Mais les directrices de cœur sont venus, ceux qui sont à côté du Niger. La plupart sont des jeunes, puis il y a même des adultes. Alors, leur condition est très terrible d'après eux. Ils n'ont pas à manger. L'hébergement, tout est nul. C'est de dire à l'État malien et la communauté internationale de prendre acte à cette action. L'injustice qui est sur les migrants puisse être enlevée. Le Mali et les autres pays de l'Afrique doivent revoir leur collaboration de l'entrée et de séjour des migrants dans leur territoire.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Colère du ministre du Commerce et de l'Industrie suite à la nouvelle flambée du prix du sucre. Moussa Alassane Diallo a rencontré ses opérateurs économiques hier. Il a déploré que ces derniers n'ont pas respecté leur engagement d'importer les 100 000 tonnes de sucre prévues. Seulement 40 000 tonnes ont été importées selon le ministre. Il annonce des réformes et dispositions pour faire face à une nouvelle pénurie du sucre. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie, est au micro de Aboubakrine Agmoussa. Mohamedine Yattara.
S'il y a des difficultés, je suis prêt à vous écouter. Nous prenons les engagements. C'est l'obligation pour chacun d'entre nous de respecter les engagements qu'il y a. Et vous n'avez pas totalement respecté vos engagements. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'inflation du prix du marché sur le marché international, le gouvernement a consenti le sacrifice de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Donc voilà aujourd'hui la situation que nous avons connue et qui a entraîné aujourd'hui une pénurie sur le marché. Mais c'est une rétention de stock que vous avez effectuée. C'est une pénurie artificielle. C'est une crise fabriquée. Celles et ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de sucre sur le marché, ce sont nos parents. Travaillons dans le respect des engagements mutuels. Nous avons effectué 3874 contrôles et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs. Pour non-respect de prix plafond, je lance une fois de plus un appel vibrant pour vous tous pour qu'ensemble nous puissions construire cette deuxième opération, ravitaillement du marché en sucre pour 50 000 tonnes avec une exonération de 25% de la base taxable.
C'était là la réaction du ministre du Commerce et de l'Industrie, Moussa Alassane Diallo. Il y réagissait face à la flambée du prix du sucre. Autre titre de l'actualité, la société civile malienne déplore une lenteur dans la distribution des accréditations pour la COP28 à 3 semaines de l'événement. Selon ses responsables, cela peut impacter la présence du Mali à cette conférence mondiale sur le climat. Il exhorte les autorités à accélérer le processus. Fatih Attara.
Ahmed Sekou Diallo, coordinateur national du consortium RL2-AFAD, impute cette lenteur au nouveau processus de distribution des accréditations. Selon lui, ces changements risquent de compromettre les engagements du Mali dans les politiques mondiales de l'environnement.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la société civile est une partie prenante des négociations sur le climat. Le ministère de l'Environnement doit faciliter l'accréditation de la société civile pour participer honorablement à la COP.
Au ministère de l'Environnement, on rétorque qu'il n'y a rien d'alarmant. Les responsables du département rassurent que le processus est en cours. Pour des environnementalistes, une éventuelle absence du Mali à la COP28 pourrait impacter négativement ses intérêts. Abdramane Sanogo, environnementaliste.
Ce n'est jamais bon de rater un événement international. Le principal enjeu pour les pays comme le Mali, c'est de lever des fonds pour financer les projets dans lesquels on utilise surtout les énergies renouvelables. Surtout que cette conférence est dédiée un peu à la transition énergétique.
Rappelons que la COP28 est prévue du 30 au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.
Parlons à présent d'éducation. Le Salon des universités et grandes écoles du Mali a débuté ce mercredi 8 novembre. Elle va se poursuivre prendre fin aujourd'hui. Cette première édition porte sur le thème « Bien s'informer pour mieux réussir ses études post-bac ». Selon les initiateurs, l'objectif est d'informer les élèves et parents d'élèves sur le choix des filières porteuses d'emploi et les universités disponibles au Mali et à l'extérieur. Reportage de Jihada Tamaïga.
Le choix des filières et l'adéquation des formations avec le marché de l'emploi constituent les défis et enjeux majeurs du système universitaire du Mali. Sidi Sall, directeur du salon, estime que cette rencontre est une occasion opportune pour mieux orienter les jeunes.
Nous allons informer les jeunes comment faire le choix des bonnes filières au niveau des universités et les filières porteurs d'emploi. On ne peut pas prendre ce choix-là à la légère, il s'agit vraiment de leur carrière. Nous allons animer des panels sur le système LMD que nous pensons vraiment pas totalement maîtrisé par les étudiants.
Des élèves et étudiants saluent cette initiative qui leur aidera à faire des meilleurs choix et réussir leur cursus universitaire.
Ce salon va me permettre de m'orienter au choix de mes filières pour bien réussir et me permettre d'avoir mon job.
J'ai eu mon bac cette année. Ça va nous permettre de faire comprendre quels sont les avantages de nos filières.
La plupart des étudiants sont confrontés à ces soucis de choix. Il y a aussi des défaillances au niveau de l'allégation de la formation sur les réalités du marché.
Plusieurs grandes écoles et universités participent à ce salon qui sera sanctionné par des recommandations en vue d'une meilleure réforme du système de formation au Mali.
Et ce jungle nous amène dans notre chronique Zoom sur. Et aujourd'hui, on parle des personnes qui souffrent de maladies imaginaires et c'est avec Lalé Tangara. Des personnes avec des maladies imaginaires, il en existe. Et Nyeba en est une illustration. Elle ne tombe malade que lorsqu'elle a des travaux à réaliser. Sa maladie imaginaire, c'est du tic au tac. Il suffit qu'un événement ou une cérémonie pointe à l'horizon. Ayant peur des tâches à faire dans la famille, à ces occasions, elle dit à ses belles-sœurs en ces termes. J'ai l'impression de tomber malade, Koyi. Et la minute qui suit, hop, la maladie de Nyeba commence. Difficile pour elle de faire des efforts. Les gémissements remplacent les discussions. Avec Nyeba, c'est devenu une habitude. À l'approche des événements, la famille sait déjà à quoi s'attendre. Mais attention, cette maladie imaginaire, généralement des femmes et des nouveaux écoliers, est aussi présente chez certains hommes. Chez ces derniers, c'est au moment de faire des dépenses que des maux de tête et de la migraine s'annonce.
Chronique signée Lale Tangara. Sport, football, le championnat d'Afrique des Nations, en abrégé CHAN, va connaître de nouvelles réformes à partir de la prochaine édition en 2024. Tous les joueurs africains évoluant sur le continent pourront désormais participer à cette compétition. Rappelons que le CHAN était uniquement destiné aux joueurs locaux qui jouent dans leur pays d'origine. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est avec Mamadi Keïta. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version Bambara avec Idrissa Sako. D'ici là, excellente journée de jeudi à toutes et à tous. Les structures de santé de proximité sont des lieux très sollicités par les patients pour la prise en charge des maladies au Mali. Il s'agit des centres de santé communautaires, CSCOM, des centres de santé de référence, CRF. Pourtant, certains malades préfèrent directement se rendre dans un hôpital en cas de maladie. Un mauvais réflexe selon des médecins. Dans ce magazine d'aujourd'hui, nous parlerons des centres de proximité, leur rôle et limites. Il est réalisé par Khalifa Gouita.
Lorsqu'il tombe malade, chaque citoyen se rend dans une structure de santé pour la consultation et la prise en charge. Mais chacun a sa préférence et les raisons qui expliquent son choix. Écoutons ces réactions recueillies à Bafoulabé et Bandiagara.
Quand je tombe malade, je me rends le plus souvent au CESCOM de Bafoulabé pour les soins.
Au CESCOM, là-bas, il n'y a pas trop de difficultés. L'accès est facile pour avoir les soins.
Ce serait mieux de passer par le CSRF parce qu'il y a le service AMO qui est là-bas.
Je vais à l'hôpital, mais malheureusement, souvent, on ne s'occupe pas bien des patients. Cela nous décourage.
Aller directement dans un hôpital là où il y a un centre de santé communautaire ou de référence équivaut à brûler une étape. Le directeur général adjoint de l'hôpital du Mali, Dr Bakary Damele, conseille aux gens d'aller d'abord au centre de santé le plus proche en cas de problème de santé.
La population doit comprendre d'abord que dès que je sens un malaise, la meilleure prise en charge, c'est la proximité d'abord. Et cette structure de proximité doit vous aider à comprendre d'abord la pathologie et vous orienter vers la structure qui faut avec un papier dont vous ne tournerez pas en rond. Si vous venez à l'hôpital du Mali, un exemple avec un problème rénal, vous allez tourner en rond parce qu'on n'a pas cette spécialité. Mais malheureusement, cette philosophie, on se lève seulement, on va direct et ça rend difficile la prise en charge. Les malades ne sont pas contents, les agents de santé ne sont pas contents parce que quelqu'un a sauté sous les étapes.
Au Mali, le centre de santé communautaire ou CESCOM est une structure de santé plus proche des usagers. Il est créé sur la base de l'engagement d'une population définie et organisée au sein d'une association de santé communautaire. Suleiman Guinot, infirmier au CSCOM central de Bankas.
Le rôle du CSCOM est d'assurer la vaccination des enfants contre les maladies infantiles, l'accouchement, le traitement du palud, entre autres. Il y a aussi des maladies qu'on ne peut pas soigner. Nous orientons ces patients au CCRF.
Autre structure de santé de proximité, c'est le centre de santé de référence CCRF. Dr Issa Guinot, médecin-chef du CCRF de Kalabankoro, nous édifie sur ses rôles.
C'est d'offrir des soins, de prévenir les maladies. Nous avons des cardiologues, des pneumologues, des gynécos, pas du grave. Nous prenons ces cas en charge. On fait la césarienne, le cas de tuberculose, le VIH-SIDA et les maladies de l'enfant, on les prend en charge.
La gestion des CCRF revient au conseil de cercle dans les régions. Ceux de Bamako sont à la charge de leur mairie respective, explique Dr Guinot. Mais le CCRF a aussi des limites dans son travail, dit-il.
Un malade malade accidenté qui vient dans le coma pour un cancer du côlon, un cancer du sein, quand ça dépasse un certain stade, nous, on est obligé de nous référer à toutes les maladies qui ont besoin d'investigations plus poussées, qui ont besoin de scanners, de radiothérapie, les traumatisés graves. Nous, on les réfère à l'hôpital.
Justement, l'hôpital a aussi des tâches à accomplir dans ses cahiers de charges. Sa différence avec les CESCOM et CCRF est à plusieurs niveaux. Docteur Bakary Damélé, directeur général adjoint de l'hôpital du Mali.
L'hôpital, c'est de prendre en charge tout malien, non malien, dès que le malade sollicite et dès que les structures périphériques également sollicitent parce qu'ils sont dépassés par le cas. Nous avons une mission également de former les étudiants sur le plan professionnel. Également, la mission de recherche pour l'amélioration du plateau technique ou l'amélioration des découvertes scientifiques. Il y a une très grande différence en termes de ressources humaines, de ressources qualifiées, matérielles, même en termes d'organisation d'admission.
Les responsables des structures sanitaires invitent les populations à toujours se rapprocher des centres de santé. Comme on le dit, rien ne vaut la santé.